Je les entends. La radio est à fond. Un tas de billets de banque bien en vue sur la table de la cuisine s'immiscent dans la discussion. Irène se lève, se retourne, prend un verre dans l'évier et le remplit de lait, puis éteint la radio. L'homme gribouille sur une enveloppe, lève les yeux, regarde par la fenêtre et bâille. Quand on lui demande son nom, l'homme dit « Serge, monsieur ». Il est grand, la peau oxygénée, et ses joues molles ressemblent à des fesses qui n'auraient jamais vu la lumière. Pour faire bonne figure, il s'est acheté un pantalon basse-taille au solde et se dandine en coinçant du cul. Le mec est costume, chemise blanche ouverte, ventre tirant vers le gros, tête rose orangée, des cheveux plaqués sur la tête. Une petite trompette en plastique jaune pendouille le long de sa bouche et Serge fait mine d'exploser. Ça dégouline, les manières avec. Serge devoir faire petit monsieur. Ce Serge devoir se taire tout de suite car il tamponne trop. Même quand il marche seul dans la rue et qu'il se regarde marcher et qu'il s'entend se commenter lui-même. Cerné par son histoire, laquelle personne ne sait. Et lui, il ne raconte rien. C'est un pantouflard qui n'a que faire du monde autour de lui. Il est demain, ce soir, demain, dans un gris flou permanent. Parfois, il y a du rose, ou du bleu rose, ou un jaune pisseux dans lequel on retrouve un peu de rose ou de bleu. Mais d'abord, il y a du gris, rien que ça. Quand il ne parle pas la langue de son travail, il ne sait plus comment dire le reste. Les méchants disent qu'il est muet. La fiction lui fait office de réussite et d'une prétendue habileté pour prendre le pouvoir. Il sait comment rationaliser l'intolérable et générer du bilan. Machiné par des tourments qu'il décrasse à l'aide d'alcool, il claironne qu'il est sensible et que la bourgeoisie n'a qu'à bien se tenir, que la révolution, etc., etc. Irène regarde ce visage propre et lisse qu'elle a caressé. Ses yeux sont injectés de petites larmes microscopiques et sa bouche caoutchouteuse est contenue dans des lèvres aiguisées. Véritable petite mâchoire du dehors qui hésite, entraînée par de très légers tremblements. Et encore des gouttelettes sous le nez et sur ses lèvres. Et là la tête de ces femmes chipotées par des magazines en vente dans les aéroports ou les hôtels étoilés. Ses cheveux sont libres mais très coiffés, teint bronzé et écorné, habit léger, enfermant un corps laborieusement caché. Elle est assise, droite et froide, un verre dans sa main gauche. Elle ne sourit pas, évoque ses recherches avec une précision ensorcelée, dit avec brusquerie « Mon boulot, c'est maintenant un mélange de sources formelles et d'anthropologie. Depuis la nuit des temps, on force les gens à s'adapter aux désirs de quelques-uns. C'est bientôt fini tout ça. Chacun vivra de son propre désir. » Affublée d'air humble, elle se débat tant bien que mal, entre sourire et mots filants. Son corps phare de l'espace en le remplissant de turbulences que Serge subit en se taisant. Irène se cabre, regarde la rue, mâchouille une allumette, crache comme si elle était gonflée à l'hélium. Je veux trouver le moyen de chasser la panique chez les gens. Plus de croyances, plus de cadeaux particuliers, un changement radical de l'espace, une sorte de rebut, un truc. Elle se tait, jette un œil à Serge, dit, toujours debout, toujours martelé par des intimités crasseuses, « J'aime les images ». Surtout quand elles sont saturées. Des images qui donnent l'impression de saper les codes, l'image rien du tout. Irène dépose le verre dans l'évier. Serge bâille et continue à griffonner des corps tremblotés. Irène vient au-devant de lui et la cuisine rétrécit. Elle n'est plus ce qu'elle était. Le désordre devient menaçant, les objets pourraient bouger et la lumière dehors, étouffée, ne simplifie pas l'espace. Elle regarde Serge et Serge marmonne. Alors il faut faire comment ? Il faut brouiller, mon cher Serge, tout brouiller, quitte à être vulgaire. La cuisine est mollement ordinaire. Il y a des jus, et si Irène le souhaite, elle peut demander un thé ou un café ou du chocolat. Un gars passe en trottinant dans la rue, et derrière lui, un enfant trottine aussi. Puis c'est une femme qui surgit en marchant rapidement, et après, il y a de nouveau un homme suivi d'un chien, puis des enfants avec une demoiselle et un jeune homme au téléphone. Les mots de bouche tapissent. Lui, abandonné, fait du bruit dans ses habits sans que cela s'entende. Il s'agite, même sa voix douce n'est plus assurée, ses yeux chicanent. Il est bien habillé comme elle. Il dit quelque chose. Il parle de la ville, du stress qui a repris, de la fatigue un peu tout le temps. Serge, encore engourdi et plein d'espoir, tente une distraction et dit « Le matin, il n'y a pas encore ces mots comme des adhésifs. C'est le moment où je n'entends rien d'autre que l'échauffement des gens. Plus tard, une fois passé la ruée, j'écoute de tout et de toutes les manières. Je ne sais plus comment filtrer. » Irène demande « Tu vomis quoi ?» Le silence cloque, puis il dit « Trop facile ta question. Tu sais que je suis fatigué. Mais tu es curieuse de savoir ce que je vais devenir. Cela te donnerait un espoir. Tu veux de la cérémonie, non ? Pour des gens comme moi, faire bien les choses, oui, pourquoi pas. Mais pour toi, c'est pas du tout ton schéma. Tu veux tout bien, tout de suite. » Il se taise. Serge ne semble pas énervé, et Irène ne veut pas de ce silence. Ils ont besoin des mots, particulièrement maintenant. « Tu as lu des journaux ces derniers temps ?»« Oui. » »« Et ?»« Je hais ces postures pathétiques que décrivent les journaux. Toutes ces bandes qui réagissent en beuglant pour éviter de parler. » On ne voit presque rien. La force est là. On ne voit presque rien jusqu'au jour où tout est là. C'est drôle comme on sait les choses. Oui. Aussi bienveillant soit-il, aucun bureaucrate ne peut s'affranchir des postures. Eux, ils organisent les débats, ils sculptent, ils inhibent. Ce sont des gestionnaires d'images, ils traquent les échappés, de peur qu'ils colportent l'odeur d'ici. Lui boit, elle pas. Lui se plie, elle non. Lui se débat avec sa gêne, ne sait pas faire. Elle lui parle de son travail, de ses choix, de sa pensée. Elle lui demande d'où viennent ces milliers de francs. Elle dit « Ils sont à toi ?» Il ne sait pas ce qu'elle pense de ça. S'empêtre tout seul dans un doute qui n'a rien à voir avec le rendez-vous. Cet argent est là, cela ne la regarde pas. Il aurait dû le cacher. Il se demande encore s'il est à lui, s'il n'a pas roulé quelqu'un. Ce qu'il croit faire d'une manière ou d'une autre chaque fois qu'il touche une telle somme pour des enveloppes remplies de ses coupures de presse. Chaque matin, il commence sa journée de travail en découpant des photos dans les journaux. Toutes les photos qui lui tombent sous les yeux. Il est grand maître aux archives d'une entreprise spécialisée dans l'armement. De l'autre côté de la fenêtre, c'est un paysage de trottoirs, de tours, d'arbres encadrés. Irène et Serge le fouillent par défaut quand ils n'arrivent pas à se regarder, quand quelque chose d'indicible griffe, quand un mot prononcé avec un ton inhabituel gifle. Quand ils n'ont plus les ressources nécessaires pour suivre ce qu'ils ont mis en place. Une mandarine roule, un petit chien crème lui court après, la prend dans sa gueule, la jette en l'air. La mandarine tombe dans la neige, elle fait un petit trou. Le chien s'y précipite, la fait rebondir. La boule orange et le soleil bleu et le chien mastique. Il le regarde. Le chien les regarde, sa gueule de coin. Il pisse et s'en va. Ils le suivent, c'est lent. Et eux ne disent plus rien. Ils ont la tête tournée vers l'avenue et ses lumières et ses passants. Ce vieux dans ses camaïeux de gris assis sur un banc en aluminium. Il baisse légèrement sa tête vers l'avant. Son regard doit remonter. Il ne semble pas très à l'aise. Ses cheveux jaunes et son regard très clair, qui vient d'en bas, fait tourner la placette sur laquelle le banc est installé, à côté d'autres bancs. Tous plantés là en cercle. Un cercle pas très grand. Une dame, avec sa charrette, passe un peu rapidement, glisse un regard sur le vieux qui la regarde aussi, et la femme continue son chemin. Elle va vers sa maison, avec des commissions. Elle porte un pull blanc. Serge glisse, se rattrape, boit un verre, fume un joint, fait disparaître, comme par enchantement, la connerie de partout, puis, tout en s'aspergeant de parfums, cancane à propos des gens qu'il aborde dans son entreprise. Une partie de lui tente de se cramponner au trémoussement du monde social, s'accroche et ordonne des pensées qui circulent tant bien que mal dans la vie de tout un chacun. Son esprit, celui qui se traîne dans la glissade, peine à mettre de l'ordre, mais celui qui ordonne se félicite de sa part incertaine. Cela lui permet de faire jaillir une petite lumière, une petite intelligence généreuse dont il ne sait que faire, mais qui lui donne l'illusion de son miracle. Il ne sait pas ce que Irène sait, ce qu'elle pense de lui, de cet argent, de sa façon de faire des affaires. Il espère secrètement que ses envolées plaintives au sujet de son directeur et de sa collègue chargée des affaires sociales le mettront à l'abri de nouvelles questions. À moins qu'Irène s'intéresse à du plus profond. Le cachet vaniteux qu'il chiffonne chaque jour en espérant ne pas être débusqué par une femme. Depuis longtemps, Serge connaît cette peur, la sienne. Il a avancé en faisant des coups, en se faufilant toujours en danseuse, un peu affolée, autoritaire aussi. Serge ne supporte plus ce qui se passe là. Prendre conscience de la complexité d'une réalité ne l'intéresse plus. Quelques idées, surtout si elles sont patinées de révolte, suffisent pour lui donner un air de concerné. Sans vouloir le savoir, sans faire l'effort de le savoir, il alimente gratuitement les visées expansionnistes d'une société dévorée par son cynisme. Il est encombrant. Ainsi sa veste tombe parfaitement. Il a un style. Ses hanches étroites regorgent de personnages et d'actions, ce brin de subversion que l'incertitude générale attend. On dit que son histoire est faite de tranchées, de flashs, de baisers volés, et de mensonges tartinés sur les murs du pays. On dit qu'il adore rejouer ses histoires comme une pièce de théâtre sans fin. On dit que son air se confond avec l'impression de sortir d'une salle de réunion ou de sport. Ce n'est pas très clair. L'alcool lui ronge la conscience de l'autre. Devant lui-même, il n'est plus rien. Face aux autres, il n'est même plus présent. Il se hurle dessus, accuse, joue la victime, beugle plus fort. Déraciné, il dénonce, fait le plein du peu qu'il a dans sa tête et le braille, le déverse, n'a plus l'autre en face. Ses mots sont des masques qui mâchouillent l'air ambiant. Sa pantomime est tellement irritée que ses employés filent se cacher dans la remise. Irène le sent, reconnaît ses stratégies, veut savoir si oui ou non il tiendra le coup. Il bouge de plus en plus, se resserre un verre, son regard plane sur la table et sur les tours, n'entend plus vraiment les mots débités. C'est la voix d'Irène qu'il ne supporte plus, le ton qu'elle prend, les poses dans sa colère, les mains en l'air, les yeux débordés, les mots qui se répandent lentement. Le temps est viscéralement affligé. Un des deux tacle le premier. Un coup sobre, inattendu, compris des deux seulement. Un coup explicite, provoquant, saturé de mémoire. Un seul tic dans la lèvre supérieure de Serge a suivi pour larder l'ambiance. Ils se cachent, chacun dans des espaces imaginaires inaccessibles, ne marchandent plus. Ils mordent et discréditent. Ils s'entendent dire des mots impossibles. Puis ils entendent tout, d'un coup. C'est violent. Ce qu'ils disent maintenant est inimaginable. Leur visage allumé et soufflé se congèle. La bouche a la même absence que les yeux. Leurs gestes découpent l'espace en zones grises à risque. Chacun voit la tête de l'autre extirpée de force d'un corps qui tressaute et se dresse raide. Il semblerait que toutes les zones palpables soient irritées, piquées. Les mots prononcés par les deux soulignent l'irrespirable d'une saturation partagée. L'impasse semble totale. Irène s'époumonne, elle vient vers Serge et s'en va, recommence encore. Tout s'emboîte. C'est vulnérable et cela jette un froid. C'est moyen. Ils regardent les ventriloques qu'ils sont devenus. Cela coagule vite. Serge se lève et Irène lui prend le bras gauche. C'est à ce moment que les frontières pâles et fatiguées de ce monde reçurent un coup de pied. Cela fit sursauter le petit chien qui se trouvait à côté d'une boîte de biscuits. Puis il eut un craquement, donc un bruit, puis une petite étincelle et quelques bouffées orageuses, et tout redevint comme avant.